Un réveillon chez Paul de Kock. Peu d'années avant la guerre de 1870, Paul de Kock avait convié quelques amis à passer la soirée chez lui, dans cet appartement du boulevard Saint-Martin qu'il habita pendant 60 ans. On devait réveillonner car c'était la nuit de Noël et on se promettait d'être gai, ce qui ne manquait guère ordinairement chez l'auteur de La laitière de Montfermeil qui avait en haine les pédants et les prétentieux. Il y avait là Henri Monnier, le sculpteur Maine, Charles Moncelet, le musicien Hervé, Ravel, Alcide Toussaint, Grasso, d'autres encore, tous bons vivants et aimant à rire. Paul de Kock était un de ces rares représentants du Parisien d'autrefois, né au crépuscule de l'Ancien Régime et qui avait gardé l'insouciance et la bonne humeur des Français du siècle dernier. Enfant, il avait gaminé au Palais Royal, dans ce Palais Royal que notre génération n'a pas connu, grouillant d'une foule où se mêlaient tous les mondes, émigrés ruinés, sabreurs du Premier Empire, septembriseurs impénitents, joueurs, duellistes, escrocs, artistes. Il y avait coudoyé les débris de la vieille France et vu surgir les protagonistes de la société nouvelle, Barras et Rossini, Chaudruc Duclos et La Montancier, Lafayette et Victor Hugo, Chateaubriand et Siraudin, et bien d'autres. Ceux qui avaient eu la chance d'assister comme lui, en simple spectateur, à cette transformation du monde, pouvaient se vanter d'avoir vu la plus passionnante de toutes les comédies. Et Paul de Kock s'y était si bien passionné qu'il n'avait pas eu l'idée de quitter la place. Je crois bien qu'il n'alla jamais plus loin que Romainville, et le fait est qu'il mourut à 80 ans, sans avoir jamais vu la mer, tant l'épouvantait la pensée de quitter Paris, même pour un jour. Ces Parisiens types, aujourd'hui si rares, étaient les gens les plus simples et les plus bourgeois qu'on pût rêver. Et voilà pourquoi, ce soir-là, le souper de Paul de Kock se composait prosaïquement d'un plat, de boudin, d'une noix au marron et d'un pâté de Strasbourg. Quant aux réjouissances que promettait la soirée, elles étaient tout autant que le menu, exemptes de prétention et d'apprêt. On causa comme on savait causer alors, bruyamment, à bâtons rompus. Henri Monnier imita le bruit de la diligence. Grasso raconta une histoire émaillée de ces fameux « niouf-niouf » qui faisaient, paraît-il, la joie de ses auditeurs. Ravel monologua quelques vieux Noël qu'Hervé accompagnait en sourdine. L'amphitryon, assis dans son grand fauteuil, souriait assez distraitement, sans paraître prendre une grande part à la joie de ses invités. Et comme on lui demandait la cause de sa mélancolie, « Je songe, dit-il, je songe à cette fête touchante que tous, riches ou pauvres, célèbrent en ce moment. Pas une fois depuis que j'ai l'âge de raison, je n'ai entendu le son des cloches de la nuit de Noël. » Pas une fois je n'ai pensé à la douce tradition de l'enfant venu pour sauver le monde, sans me souvenir en même temps de l'histoire d'un autre enfant. Une histoire ! Paul de Kock va nous dire une histoire ! S'écrièrent les invités en se groupant autour de leur hôte. Oh, elle est bien simple, mais elle est vraie. Elle date d'il y a longtemps, car l'action se passe en 1794, à l'époque où l'échafaud était en permanence au bas des Champs-Élysées. Il y avait alors à Passy une jolie maison, aujourd'hui démolie, où vivait un jeune ménage, Monsieur et Madame De. Ils étaient riches, nobles, heureux, trois titres bien lourds à porter en ce sinistre temps. Un enfant leur était né au milieu de l'année précédente. Ils vivaient sans luxe, ne s'occupant point de politique, et se souciant peu des partis qui se disputaient le pouvoir. Cette indifférence ne devait point pourtant les mettre à l'abri du malheur. Il se trouva quelque envieux que leur calme existence enrageait. Monsieur De fut dénoncé comme aristocrate, arrêté, traîné au tribunal et condamné à mort. « Elle n'est pas gaie, ton histoire, » fit Grasso en se versant un verre de punch. « J'aime mieux Gustave le mauvais sujet, » fit un autre. « Tu n'es pas folâtre ce soir, mon cher maître, » remarqua un troisième. « Dame, » fit Paul de Kock, « je vous ai dit que l'anecdote était authentique. » Madame De, restée seule dans la petite maison de Passy, était dans la situation morale d'un être sur qui la foudre est tombée. En 48 heures, tout son bonheur s'était écroulé. Poussée par je ne sais quel espoir fou, le jour où son mari devait être mis à mort, la pauvre femme était sortie de sa maison, à l'heure où elle savait que les condamnés quittaient ordinairement la conciergerie pour être traînés à la place des exécutions. Portant son enfant dans ses bras, elle avait descendu l'avenue des Champs-Élysées et s'était assise sur un talus d'herbe au pied des arbres dépouillés. C'est à peine si de là elle pouvait apercevoir, dans le jour brumeux, l'instrument des supplices qu'entouraient quelques soldats. Elle restait là, sans penser, sans voir, berçant d'un mouvement machinal le petit être qui dormait sur son cœur, et tout à coup, comme un remous se produisait dans le groupe massé autour de l'échafaud, elle poussa un rugissement d'épouvante et, affolée, se mit à courir, remontant l'avenue boueuse, serrant contre elle son enfant d'une étreinte convulsive et passionnée. Les gens qui la croisaient sur la route s'arrêtaient un moment pour la suivre des yeux et, comprenant, poursuivaient leur chemin sans mot dire. On la vit ainsi errant, comme si quelque horrible spectre l'eût poursuivi dans les rues de Chaillot, s'appuyant au mur, les yeux hagards, secoués de gros sanglots. Vers le soir, un blanchisseur de Paris qui la connaissait l'aperçut en revenant de la rivière, tournant autour de l'église abandonnée du couvent des bons hommes. Il la prit dans sa carriole et la conduisit jusque chez elle. Elle se laissa faire, indifférente, l'air égaré. Pendant la nuit, des voisins l'entendirent chanter pour endormir son petit garçon. Sa voix par moments se brisait et la chanson commençait se changeait en de rauques gémissements dont l'accent de détresse faisait frissonner. Ces tragédies étaient communes à cette époque et on y était en quelque sorte accoutumé. Dans le silence de ces quartiers paisibles, quand on percevait la nuit des cris de désespoir, et que les gens du voisinage s'interrogeaient à voix basse, ceux qui savaient répondaient « C'est la femme une telle, les hommes du tribunal sont venus tantôt prendre son mari ou son père. » Et la chose était devenue si banale qu'on ne songeait plus à s'en émouvoir. On apprit depuis que celle dont je vous raconte l'histoire, se retrouvant dans la maison vide où les scellés avaient été apposés le matin, ne put rentrer dans sa chambre sur la porte de laquelle s'étalait la petite bande de toile blanche maintenue par les cachets rouges à l'effigie de la République. Elle passa la nuit dans un vestibule sans meubles, assise sur le carreau de briques. L'enfant, qui avait froid, pleurait, et la mère, courbée sur lui, cherchait à le réchauffer et trouvait la force de chanter pour l'endormir. Une voisine charitable qui vint, à l'aube, lui offrir ses services, la trouva transie, sans larmes, n'osant faire un mouvement de crainte de réveiller le petit qui sommeillait sur ses genoux. On était à la fin de l'hiver, et le soleil se montra ce jour-là, radieux et tiède, un de ces beaux soleils du printemps parisien qui font en quelques heures éclater les bourgeons et fleurir les lilas. La jeune mère, dans le jardinet qui s'étendait derrière la maison, s'était assise près d'un baquet d'eau pour procéder à la toilette du bambin que cette nouveauté réjouissait, quand de grands coups, frappés à la porte de la rue, la firent tressaillir. La voisine, qui rangeait non loin de là des linges sur l'herbe, courut ouvrir et reparut toute pâle. « Oh, madame, les voilà qui reviennent !»« Qui ?» « Quatre citoyens qui demandent à vous parler. Je les ai bien reconnus. Trois d'entre eux sont les mêmes qui sont venus ici chercher monsieur. » Les hommes avaient pénétré dans le jardin. La brave femme ne se trompait pas. L'un était le commissaire de la section, qu'accompagnaient deux porteurs d'ordre du comité de sûreté générale, bien connus dans Passy, qu'il terrorisait depuis 6 mois. Le quatrième était entièrement vêtu de noir et portait un grand feutre orné d'un bouquet de plumes tricolores. C'était un homme d'âge mûr, au teint bilieux, aux traits accentués. Madame II le reconnut aussitôt, bien qu'elle ne l'eût vu qu'une fois. Blême de terreur, elle murmura, prête à défaillir, « L'accusateur public, Fouquier Tinville !» Il faut remarquer que l'histoire est rapportée ici telle que Paul de Kock la contait. Mais quelques confusions s'étaient faites, sans doute, dans les souvenirs de Madame II, de laquelle il en tenait, comme on va le voir, le récit, car Fouquier Tinville n'avait pas pour habitude de venir en personne recruter les clients de son tribunal, et il laissait ordinairement cette besogne à des sous-ordres. Quoi qu'il en soit, le personnage que Madame II prit pour l'accusateur public s'approcha d'elle. « La citoyenne ?» demanda-t-il froidement. « C'est moi. » « On a trouvé, citoyenne, dans les papiers de ton mari, 3 lettres signées de ton nom. Les voici. Les reconnais-tu ?» Elle jeta un regard au papier. « Oh, vous allez me prendre ? » fit-elle. « La surprise est désagréable, j'en conviens, » ajouta Fouquier d'un ton de moquerie pédante. « Mais la loi est formelle. Tu es convaincue de correspondance avec les ennemis de la nation. » « Vous allez me prendre ?» répéta la malheureuse terrifiée. « Tu ne peux rester ici. D'ailleurs, les scellés ne seront levés qu'ultérieurement. Il est impossible que tu séjournes dans cette maison qui est devenue la propriété de la République. » Et se tournant vers le commissaire, « Tu conduiras, dit-il, la citoyenne à la conciergerie. Je l'interrogerai ce soir et tu donneras son nom au greffier Fabricius. Elle passera demain. Il est inutile qu'elle languisse en prison. Je passerai demain ? Oui, au tribunal. Tu peux d'ici là préparer tes moyens de défense. » Il parlait d'une voix brève, continuait Paul de Kock, sans inflexion, sans nuance. On sentait en lui l'homme dont le cœur est de pierre, que rien ne peut attendrir, blasé sur tous les désespoirs, insensible à toutes les larmes. L'homme qui s'est fait un métier de la mort, le bon fonctionnaire qui tue parce qu'il a l'ordre de tuer, aussi inflexible et aussi impitoyable que la hache à laquelle il aimait se comparer. Madame II comprit qu'elle était perdue. D'un mouvement involontaire, elle serra sur son sein l'enfant qu'elle tenait dans ses bras et qui agitait tout joyeux ses petites jambes nues. Elle jeta un regard sur ce coin de terre où elle avait été jadis, si heureuse, comme si elle prenait à témoin les choses de la cruauté des hommes, comme si elle cherchait, peut-être, quel sauveur allait surgir pour l'arracher, elle, innocente, au bourreau. Mais quelle folie ! Qui donc aurait eu assez de courage et d'audace pour entrer en lutte contre la force implacable que ces hommes représentaient ? Quel héros qui n'eût reculé ! Et pourtant le sauveur était là, tout près d'elle. « Qu'ai-je fait pour aller à la guillotine ? » soupira-t-elle. « Quel crime ai-je commis ?» Fouquier Tinville, toujours calme, allait répondre, mais quelqu'un l'en empêcha. L'enfant, étonné plutôt qu'effrayé à l'aspect de cette figure étrangère, tendit ses petits bras vers le terrible pourvoyeur de la guillotine et partit d'un de ces éclats de rire de nouveau-né, expression délicieuse d'une de ces joies mystérieuses dont Dieu seul connaît le secret. La mère tremblait, la mère voulait le faire taire. Elle avait peur que cette gaieté ne déplût à ces hommes sombres. Mais le bambin s'agitait tout joyeux et toujours riant, montrant ses gencives roses. Il allongeait ses mains vers les belles plumes tricolores qui s'agitaient sur le feutre noir de l'accusateur public. Celui-ci eut un regard étrange, Un flot de bile pâlit son visage impassible. « C'est à toi, cet enfant, citoyenne ?»«
Oui, citoyen.
C'est le fils de... » La mère, que les sanglots suffoquaient, fit de la tête un signe affirmatif. « Son père est mort hier, » ajouta-t-elle d'une voix tremblante. Fouquier-Tinville resta un moment silencieux, puis il reprit. «
Quel âge a-t-il »
« Dis-moi. » « Il est fort pour son âge. Où est sa nourrice ?»«
C'est moi, citoyen, qui le nourris. »«
Ah, c'est toi qui... » Il sembla faire un effort et se mordit les lèvres. L'enfant continuait de rire. Les larmes de la mère coulaient et l'homme de mort les regardait tous deux sans rien dire.
« Eh bien, » fit-il tout à coup en se tournant vers ses compagnons, « je ne vois pas d'inconvénient à laisser la citoyenne quelques jours ici. » Jusqu'à ce que ce petit soit sevré, par exemple.
C'est que, fit le commissaire, tout a été saisi au nom de la loi dans cette maison. On va tout vendre.
Bah, répliqua Fouquier-Tinville, la citoyenne rachètera son lit et le berceau de son enfant. Voilà tout.
Il tourna le dos et entraîna les autres, tandis que Madame de tombait à genoux et remerciait Dieu en embrassant de toutes ses forces l'enfant qu'il avait sauvé.
« Eh bien, » demanda Paul de Kock en terminant son récit, « connaissez-vous dans l'Antiquité beaucoup de traits d'amour filial qui puissent être comparés à celui-là ? Je puis bien vous dire, maintenant, le nom de cette femme, c'était ma mère, et c'est moi qui, au maillot encore, l'arrachais à la guillotine. J'avais bon appétit. » Et le lait était si cher qu'on dut renoncer à me sevrer avant l'été. Ce qu'un mouvement d'humanité dans un cœur de tigre avait commencé, les événements l'achevèrent. La révolution du 9 Thermidor survint, et avec elle, le dernier jour de la terreur. Ma mère n'eut plus à craindre qu'on vînt lui ordonner de se préparer à mourir, sous prétexte que j'avais l'âge où sans elle, je pouvais vivre. » Et l'aimable auteur de « Monsieur Dupont » ajoutait en souriant « Ce fut là mon premier roman, et sans nul doute, mon meilleur. »